Vous êtes en direct sur Radio Barthas et 48 FM, en direct du parc Wunsiedel. J'espère que je prononce bien Wunsiedel de Manque. Tu confirmes ou pas, Ben ?
J'ai eu la même galère que toi. Oui, mais bonjour.
Salut, Ben. Et à la technique avec nous aussi ce soir, Arthur, Léo et Véro de Radio Barthas. Donc c'est parti pour un peu plus d'une heure d'émission spéciale Marche des Fiertés en Lozère, deuxième acte cette année. L'occasion bien sûr de parler droits des personnes LGBT via les associations qui les représentent et agissent au quotidien pour défendre leurs droits. Droit à une égalité de traitement dans tous les pans de la société, que ce soit dans le secteur de la santé, dans la culture, dans le monde du travail et dans tout de manière générale. Alors on commence cette émission avec celles et ceux à qui l'on doit tout ce jour. Joyeux, coloré et engagé rassemblement ici au parc Wunsiedel de Mende, à savoir le collectif Tapage. Alors avec nous sur ce plateau, nous avons M, Loun et Marielle. Salut à toutes les trois.
Salut.
Salut.
Merci de me répondre, c'est sympa. Marielle, tu seras aussi là pour représenter le planning familial de Lozère. Alors cette année, combien de personnes pour cette marche des fiertés, M?
Alors, à vue de nez, j'ai fait un compte rapide, mais c'était pas évident parce que ça bougeait très vite. Non, ça bougeait pas si vite. Mais non, je dirais qu'on devait être peut-être un peu moins nombreux que l'an dernier sur la marche. À mon avis, on était dans les 200 à peu près, ouais. Dans tout ce cortège, qui était quand même un très beau cortège.
Ce qui est déjà pas mal, une petite centaine de mois, parce qu'il paraît qu'en fait, il y a aussi la marche à Montpellier, donc ça
Exactement.
Doit peut-être jouer. Mais c'est pas pour autant que ça signe la fin définitive de la marche, puisque vous comptez ça, remettre ça chaque année.
Ah bah a priori oui, non, je pense que même s'il y avait un petit peu moins de monde cette année, peut-être à cause de Montpellier, je pense que les gens qui étaient là étaient très contents d'être là, et puis nous on est, enfin moi perso en tout cas je suis très contente.
En fait c'est ça, il y a une énergie qui est mise en route, évidemment c'est la deuxième année, un peu moins de monde, c'est pas bien grave, l'énergie est là, bim on y va quoi.
Absolument, c'est tout à fait l'idée.
Tapage, donc à la base c'était un collectif, maintenant c'est une association hein, officiellement depuis août, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça?
C'est ça, c'est qu'en fait c'était effectivement un collectif informel, puisque la marche des fiertés l'année dernière, on l'a portée grâce au planning familial de Lozère, qui a fait les démarches administratives, etc., puisqu'on n'était pas encore constitué en asso. Et puis suite au beau succès de cette première édition, on s'est dit que on allait continuer et qu'on allait effectivement monter une asso pour vraiment pouvoir faire d'autres actions, toujours la marche, mais aussi d'autres actions tout au long de l'année, d'autres actions culturelles, d'autres actions de prévention, de sensibilisation, etc.
On va en parler un peu plus en détail des actions que vous faites, mais j'aimerais déjà revenir sur l'origine de la création de cette association. Donc, déjà, vous êtes combien actuellement? Comment ça a évolué depuis 2021, hein, c'est ça?
Je sais pas, on était au tout début, on était 4, 5 peut-être. Et puis là, on a doublé nos effectifs hein, quand même dans le noyau dur de l'asso. On doit être une petite dizaine maintenant. Mmh. Et voilà, on se répartit un petit peu toutes les tâches. On est assez complémentaires, je trouve, dans l'ensemble.
L'idée, c'était de bâtir des ponts aussi l'année dernière, quand on s'était vu, notamment à la grosse journée qu'on avait faite à Florac. Puis derrière, il y a eu la première marche de fierté. Est-ce que justement, ces ponts entre toutes les assos, on peut dire objectif atteint, est-ce que vous avez vraiment réussi hein, un peu à y aller?
Moi je suis Lune, je suis présente depuis un an et donc effectivement j'ai vu qu'on a été à différentes prides des régions voisines, on continue à créer des liens avec les associations LGBTQIA+ voisines. Donc pour ça en tout cas je pense que oui. Après, est-ce qu'il y a d'autres associations avec qui on garde encore le contact? Il y a le planning familial toujours sur le territoire, ouais.
Marielle, tu n'as pas ton micro dans les mains.
C'est parce que j'ose pas parler.
Oui, c'est un petit peu timide, Marielle.
Or tu le fais tellement bien.
T'as vu? J'ai de l'humour aussi. Est-ce que ça rit?
En tout cas, c'est la création de cette marche des fiertés en Lozère, ça s'inscrit aussi dans un mouvement qui s'observe un peu partout en France. C'est plus que les grandes villes maintenant qui font leur marche des fiertés. Est-ce que vous avez un lien avec les autres assos qui organisent ça un peu ailleurs, ou en tout cas dans les territoires voisins?
Alors oui, on a des liens, surtout avec les LBD qui sont là aujourd'hui. Il y a avec Alerte aussi. Mm-hmm. Donc les LBD, c'est la marche de fierté de Villefranche.
On peut dire quand même que les LBD, c'est les bonnes débroussailleuses, parce que ce nom est tellement fabuleux. C'est pour débroussailler les idées reçues en campagne, il me semble.
Et la semaine passée, c'était leur Pride, et il y a eu beaucoup, beaucoup de monde, peut-être plus de 400 personnes.
Ah oui.
Et c'était vraiment génial.
C'était la troisième à Villefranche, il me semble, Villefranche de Rouergue en Aveyron. Et puis, ouais, on s'est un peu rendu sur d'autres marches aux alentours, à Aubenas, si je ne me trompe pas.
À Rodez. Avec Alerte.
Exactement. Et les gens qui participent à ces marches des fiertés, après c'est pas toujours facile de savoir d'où ils viennent, mais est-ce que c'est, il y en a certains qui viennent vraiment de petits villages un peu plus reculés, vous arrivez à le savoir ça?
Alors c'est assez difficile parce qu'on n'a pas fait de sondage encore.
Ouais.
C'était une question qu'on s'était posée à la toute première organisation, donc qui n'était pas une marche, qui était un événement statique qu'on avait fait il y a 2 ans du coup, qui s'appelait Les Mauvaises Herbes, et où on s'était rendu compte justement qu'il y avait quand même pas mal de gens, alors c'était vraiment assez centré sur la Lozère, mais pas mal de gens qui venaient de coins assez reculés, ouais, et qui étaient très contents ou contentes de nous trouver là. Donc ici, bah, il va falloir aller interviewer les personnes qui sont présentes.
C'est ça.
Et quel orga, parce qu'on voit un système son qui est absolument incroyable, des lumières, 3 groupes qui vont se produire et qu'on aura la chance d'avoir là dans quelques instants, des assos qui sont présentes, etc. J'imagine que vous devez avoir des soutiens quand même derrière. Est-ce que justement vous vous sentez assez soutenu?
Moi, en tout cas, je tiens déjà à dire qu'on a beaucoup de chance parce qu'il y a au moins 2 personnes de l'association qui bossent dans l'événementiel et donc forcément, ça aide beaucoup et elles font un travail de ouf. Voilà.
Ouais, bon, on a l'habitude un petit peu, mais non, on fait pas que ça. Non, on a surtout la chance, effectivement, d'avoir du soutien logistique et technique de LLS, Lozère Logistique Scénique, qui sont partout en Lozère et qui sont vraiment des crèmes qui étaient déjà avec nous l'année dernière et qui rendent tout ça possible techniquement. Donc ça, c'est magnifique. Mais après, effectivement, on a un petit peu quand même de soutien institutionnel financier, ouais, au niveau de la région. Alors, je ne sais pas si c'est la région. Moi, je ne suis pas très calée. Marielle est plus calée que moi sur ces questions-là.
Les subventions. On a le soutien de la DILCRA, la délégation interministérielle de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine LGBT. Ensuite, on a un petit soutien de l'ARS pour essentiellement la santé sexuelle. Donc ça nous fait un tout petit budget qui est bien loin d'être notre budget réel. Mais après, on compte sur la buvette, sur les sandwichs.
Et coup de bol,
buvez des coups.
Buvez des coups, on a eu très chaud pendant cette marche. N'hésitez pas.
Combien de temps ça prend pour organiser ce type d'événement?
6 mois,
ouais, je dirais bien ça. Je pense qu'on s'y est remis à peu près il y a 6 mois. Ouais, janvier, on est en juin, à peu près ça.
C'est ça, 6 mois.
Et c'est du 6 mois intensif, hein, par contre.
Et vous avez une bien belle affiche aussi cette année, on peut dire qui c'est qui l'a faite.
Ouais, on a la grande chance d'avoir eu une magnifique affiche réalisée par Sophie Arlotto du Hangar aux Gorilles, qui sont aussi une asso très soutenante, qui nous ont aussi aidé à faire ce magnifique char qui a ouvert la marche des fiertés. Et ouais, on les remercie beaucoup et c'était...
Et ouais. Il me semble, je l'ai entendu dans ton émission à toi, M, qui passe sur 48 FM, il y a eu un problème d'arrachage d'affiches aussi. Ça s'est observé que cette année ou déjà la première année, il y a eu des petits soucis un peu comme ça?
Non, malheureusement, on a constaté... Pardon, j'ai du mal avec le retour.
Oui, parce qu'on s'entend.
On a constaté ça sur plusieurs événements. Moi, personnellement, à partir de novembre, quand on a fait un événement pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, c'était aussi le cas le plus caricatural parce qu'on s'est fait taguer sur le monument aux mortes qu'on a monté. Mais depuis, à chaque fois qu'on affiche des choses, que ce soit pour cet événement-là ou pour la Pride ou pour autre type d'événement, on refuse de les prendre dans les commerces, on les arrache, on les tague, on les bombe dans des endroits systématiquement et parfois en quelques heures.
Et comment vous réagissez à ça? Vous recollez les affiches par-dessus?
Alors on essaie d'en remettre, mais effectivement on n'est pas assez nombreuses, pas assez nombreux, on n'a pas des grands moyens financiers non plus, parce que c'est aussi des frais d'impression, de com, tout ça. Donc, et puis on n'est pas très nombreuses, donc on essaie de couvrir un territoire assez large, du coup c'est compliqué. Il y a des moments où on laisse tomber, parce que en fait ça va tellement vite que tu remets une affiche une fois, le lendemain ou le surlendemain, puis tu vois que le surlendemain elle est encore repartie. Tu dis que vraiment à cet endroit-là c'est compliqué. Voilà, donc là il y a un petit moment où on a fait une petite pause parce qu'on avait beaucoup trop de choses à faire dans l'orga pour retourner coller en fait. Et donc on s'est remissionné plus cette semaine vraiment histoire d'en remettre une couche. Puis après on a fait pas mal de com par les réseaux sociaux et internet. Et puis voilà quoi.
C'est aussi peut-être parfois, bon, on ne sait pas qui fait ça, hein, mais il y a pas mal de petits cons dans ce délire. Ça, je pense, on a encore eu la preuve tout à l'heure avec des petits trucs qui se sont passés et qui a été d'ailleurs très très bien géré par les équipes quand vous êtes partis à la marche. Est-ce que tapage, le planning aussi, vous allez dans les écoles pour essayer de sensibiliser et dire waouh, hey, on n'est pas différentes de vous, en fait. On voit juste les choses d'une autre manière. Comment ça se passe?
Je réfléchis.
On a le temps.
Non, avec tapage, on ne va pas forcément dans les écoles, les collèges ou les lycées, même si une personne de tapage, parfois, vient avec le planning pour co-animer des animations sur les questions LGBT. Après, on ne prend pas la question... Comme tu l'as présenté, mais ça va être plus qu'est-ce que c'est qu'être LGBT, qu'est-ce que c'est que subir des LGBT-phobies, et qu'est-ce que c'est qu'être allié, ou comment peut-on l'être. Donc on va faire essentiellement des activités, par exemple débats mouvants, des choses comme ça. Et on a assez... Ça dépend des classes, mais on a des belles choses, et puis on a des choses un peu plus difficiles à gérer.
Cette année, il y avait une volonté pour cette deuxième marche des fiertés de Lozère d'être plus revendicatif. Pourquoi?
Alors d'abord parce que je crois qu'il se passe vraiment beaucoup de choses hyper pas cool. Je ne sais pas trop comment le dire, je n'ai pas bien préparé le discours. Mais on a vu quand même une recrudescence des actes homophobes, transphobes, ainsi de suite, sur des centres LGBT, sur des personnes, on en parlait tout à l'heure, pendant la marche, on a fait des petits discours, etc. Enfin, c'est triste quand même d'en arriver là et de devoir souligner ça et de se rendre compte qu'on se heurte encore à ça en 2023, je pense. Donc c'était quand même clairement une volonté d'abord d'apporter du soutien à tous les centres LGBT qui se font caillasser, qui se font parfois, enfin il y a eu des bouteilles explosives lancées contre des centres LGBT, ainsi de suite. Donc je ne vais pas recenser à nouveau tous les actes de violence qu'on a pu connaître ces derniers temps, mais on se rend compte que c'est quand même grave. Et puis nous on avait envie, enfin l'année dernière c'était vraiment un one shot, enfin un premier jet de cette marche. Donc forcément, il y a plein de choses qu'on n'avait pas eu le temps d'organiser, de penser en amont. Et on s'est dit cette année que c'était vraiment important aussi de mettre l'accent sur tout ça et de prendre le temps de parler aux gens qui étaient là et de d'avancer là-dessus.
C'est ça, faut prendre aussi le dernier rapport d'SOS Homophobie qui est absolument terrible, hein, parce qu'en 2022, la transphobie continue à être de plus en plus signalée sur leur canal d'écoute. On est à plus 18% de violence pour les trans. Dans le cercle familial, c'est plus 15% en fait au niveau des violences sur la communauté LGBTQIA+. On en a des chiffres qui sont complètement fous. Et là où on croyait qu'il y avait des victoires, avec, on a parlé tout à l'heure en début, juste avant le défilé, du mariage pour tous, des victoires, etc., rien n'est jamais acquis. Et là, il faut se battre plus que jamais. D'où le fait, devant, entre guillemets, le monument aux mortes, de dire voilà, là on s'allonge et c'est l'idée vraiment de marquer en fait vraiment pas mal de choses dans ce que vous avez voulu faire. Est-ce que vous pensez que les marches des fiertés c'est suffisant ou alors est-ce qu'il faut faire beaucoup plus?
Ben, les marches des fiertés c'est déjà une chose, surtout là dans nos campagnes. Après, évidemment qu'il faut faire plus de choses, il faut faire plus d'éducation à la sexualité, il faut faire essentiellement passer par l'éducation à la sexualité, mais pas que.
En l'éducation tout court, ouais.
Éducation tout court.
Le respect général, déjà. Mais, oui.
Justement, on va embrayer le pas sur l'éducation à la sexualité, donc je m'adresse à Marielle en tant que représentante du planning familial de Lozère. Donc c'est une de vos missions hein, d'aller auprès des scolaires pour faire justement de l'éducation à la sexualité. On va encore parler d'un dernier rapport ou en tout cas quelque chose de médiatique qui a eu lieu en tout début d'année où le planning a porté plainte avec SOS Homophobie et une autre association à CIDAction. Voilà, je l'avais oublié. Comme quoi, en fait, la loi, donc c'est depuis 2001, si je ne dis pas de bêtises, que la loi est censée garantir un accès à l'éducation sexuelle à tous les enfants, donc depuis le...
Depuis la primaire depuis jusqu'au lycée.
Et ce n'est pas respecté. Est-ce qu'en Lozère, c'est aussi le cas, et tous les établissements, tous, vous n'intervenez pas auprès de tous de manière égale, quoi?
Alors, on n'intervient pas partout, parce qu'on n'a pas les moyens matériels de le faire. Après, il n'y a pas que le planning qui fait de l'éducation à la sexualité. Il y a aussi le CIDFF, aussi d'autres assos qu'on ne connaît probablement pas. Et après, en interne, il se passe des choses. Des infirmières, des AS, assistantes sociales, peuvent donner des séances d'éducation à la sexualité. Certaines personnes, enfin des profs qui seraient formés à l'éducation à la sexualité pourraient le faire aussi. Mais même si on fait la somme de tout ce qui s'y passe, on n'arrive jamais, jamais de la vie à 3 séances d'éducation à la sexualité.
Voilà. Parce que c'est à peu près 3 séances annuelles, c'est ça, de je ne sais plus combien d'heures.
Ben, ça ferait plus d'une trentaine de séances dans une vie, enfin dans la vie d'une personne scolaire, enfin scolarisée.
Et c'est quoi les conséquences de ça alors, qu'il n'y ait pas suffisamment d'éducation à la sexualité?
Ben, c'est les conséquences qu'on peut voir aujourd'hui, les violences sexuelles et sexistes, les écarts de salaire entre les hommes et les femmes, tout en fait.
Et est-ce que c'est en augmentation? Enfin, est-ce qu'on arrive à voir un peu une évolution de ça? Est-ce que du coup, il y a plus de violence entre les enfants actuellement ou pas? Est-ce que vous...
Je ne sais pas s'il y a plus de violence. En tout cas, peut-être qu'elles sont plus étudiées aujourd'hui, donc elles sont plus visibilisées. Si on prend la question de l'inceste aujourd'hui, c'est plus visibilisé. Il y a eu le hashtag inceste qui a libéré la parole. Pour autant, ça, libérer la parole, c'est un premier pas, mais ça ne résout pas le problème. Ça permet d'amorcer peut-être un changement par plus d'actions, par plus d'écoute, par plus de dispositifs, par plus d'argent aussi que mettra l'État peut-être pour des initiatives. Après, il y a des initiatives aussi en Lozère pour lutter contre les violences envers les enfants, mais voilà, c'est qu'un petit début.
Violence, quelle qu'elle soit, parce que dans le mail que M nous a envoyé, c'était aussi faire vraiment un focus sur les violences sexistes et toutes les violences en fait en général. On comprend pas nous parce que je pense qu'on est issu d'un milieu pacifiste, non violent, tolérant. Et comment on peut expliquer ce genre de comportement et qu'est-ce qu'on peut faire encore et encore?
C'est vraiment une question. Alors comme disait Marielle, moi je me demande si le fait qu'on soit pas de plus en plus visible et qu'il y ait des avancées des droits qui sont finalement hyper tardives. Tout à l'heure, on a fait le point un peu sur, il y a une chronologie aussi là-bas, de l'avancée des droits LGBTQIA+. Alors, on est content. Oui, les droits arrivent, l'équité et l'égalité arrivent, mais arrivent tellement tardivement qu'on ne sait même pas si on doit s'en réjouir, en vrai. Parce que applaudir que, je les ai pas là, j'ai pas du tout préparé le truc, mais applaudir que en 2020 ou en 2022 on ait fait ci ou ça, c'est
ça
un peu dur.
Trop tard.
En fait. Ouais, c'est ça, c'est hyper tard. Mais du coup, j'ai l'impression qu'effectivement, comme tu disais Marielle, peut-être qu'on regarde plus les signalements, etc. Et que maintenant qu'on en fait le compte, on se rend compte que bah ouais, c'est énorme en fait, il y en a vraiment tellement. Et en même temps, le fait aussi que les personnes homo, lesbiennes, trans, etc. soient d'autant plus visibles et qu'on leur donne des droits, et ben du coup, ça excite les espèces de velléités un peu violentes des autres, quoi, enfin des personnes malveillantes, quoi.
Clairement, il y a eu le phénomène du backlash qui est réel, c'est-à-dire que suite à tous les débats, par exemple pour l'ouverture de la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules, ça a enclenché des raz-de-marée de violence. Et moi, j'ai grandi là-dedans. Et quand on se sent concerné et qu'on entend les choses qu'on dit de soi alors qu'on ne sait pas encore qui on est soi, c'est très violent. Et donc, effectivement, l'ouverture des droits, elle est bien, elle est tardive et elle s'accompagne d'un cortège de violence qui est inouï, en fait.
Qui est à chaque fois qu'il y a une avancée sociétale qui se passe. On l'a vu avec la peine de mort, on l'a vu avec le mariage pour tous, on le voit là avec la PMA. À chaque fois, il y a des gens qui en profitent un peu pour ressortir des discours. Et on ne va pas les citer parce qu'on n'a pas envie de salir nos micros.
C'est ça. Non, merci Ben, c'est la meilleure chose que tu as. C'est la meilleure chose que tu viens vraiment de dire exactement. En fait, c'est vraiment dommage de devoir... Enfin, voilà, rester là-dessus, ça peut en dire là-dessus. Mais effectivement, on l'a vu déjà il y a 10 ans hein, avec le mariage pour tous et le raz-de-marée de manif pour tous qu'il y a eu derrière. C'est flippant quand même.
Oui, il y a toujours le pendant côté noir en fait, de chaque cause. Il y a toujours,
oui, alors pourquoi ? Parce que je veux dire, qu'est-ce que ça enlève aux personnes qui ne sont pas concernées ? Qu'est-ce que ça leur enlève comme droit ? Qu'est-ce que ça fout comme bordel dans
des
leur
privilèges.
Vie ?
Eh bien, on leur pose la question, qu'est-ce que ça vous enlève ? Merci beaucoup à toutes Merci. Les trois d'être venues. On reste quand même sur une note optimiste. Vous êtes heureuse d'être là, j'imagine. Et il y a quand même une avancée chez la jeune génération aussi. Est-ce que vous le ressentez, ça, au planning familial ?
Optimiste,
alors oui.
Essaye.
Il ne faut pas que je repense aux dernières animations. Qui était un peu brutale. Après, les animations brutales, c'est pas parce qu'on entend des choses qui peuvent paraître horribles à une personne qui débarquerait dans l'animation comme ça, que ça l'est vraiment, parce qu'on se dit, au moins les personnes, dans le cadre qu'on leur propose, elles osent dire des choses qui peuvent être parfois très homophobes ou très violentes, mais au moins ça nous permet de déconstruire ce qu'elles ont dit. Et après, peut-être, de se dire qu'elles vont changer leur pensée. Et souvent, nous, quand on termine l'animation, on fait toujours un petit tour de parole pour comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez appris des choses ? Comment vous êtes senti pendant l'animation ? Et souvent, quand même, on a des personnes qui nous disent j'ai peut-être changé d'avis, j'ai apprécié écouter l'avis de mes camarades, ou j'ai été choquée de ce que j'ai entendu, parce que je ne pensais pas que dans ma classe, il pouvait y avoir des personnes qui pensaient pareil. Donc voilà, on se dit que comme ça, petit à petit, on va peut-être réussir à changer tout ça.
Et moi, j'ai une note positive pour aujourd'hui. Moi, je trouve ça trop cool, ce genre d'espace, parce qu'on voit que les gens se libèrent dans ce genre d'espace. Ils et elles savent qu'ils sont dans des milieux safe ou qu'on essaye de construire le plus safe possible. Donc les gens mettent les vêtements qu'ils veulent, embrassent qui ils veulent, demandent les pronoms les uns aux autres et se sentent libérés dans leur corps. Et ça se voit, je trouve, et donc je trouve que c'est génial.
Parfait. Ouais, j'ai aussi une note positive, c'est qu'on a eu un vrai engouement et des vraies réponses positives des artistes qu'on a contactés en fait pour venir participer à la soirée de cette Pride, et on est très très ravis et honorés de les accueillir. Et voilà, et ça a fait chaud au cœur parce que on a vraiment reçu beaucoup de soutien aussi de ce côté-là, sur les réseaux et sur... beaucoup de gens qui nous ont aidés à monter cette journée et la soirée qui arrive. Donc voilà. D'ailleurs, rejoignez-nous parce que à partir de 20h, on aura des concerts de folie. Mais vous allez en parler, je crois.
Et on va justement... Voilà, exactement. Merci beaucoup, M. Merci, Marielle. Merci, Lune.
Merci.
Très bonne soirée à toutes les trois.
Merci à vous.
Et avant, donc, nous allons accueillir très prochainement un des artistes dont tu parlais, M. Mais avant ça, bien sûr, petite pause musicale. Merci Arthur.
Elle savait comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Mais laisse attendre, elle pourrait vous donner une chance de vous. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi le roi tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Si seulement elle savait comment tu l'envisageais, même si t'es une fille. Elle savait comment tu pourrais l'aimer tellement plus que lui. Mais peut-être qu'un jour elle verra tout l'amour que tu pourrais lui donner. Moi je crois aux histoires qui peuvent parfois bien se terminer. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. De reine, c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi, les rois, tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine, c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi, les rois, tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît.
Aux artistes, ceux et celles qui vont vous faire vibrer ce soir. J'ai nommé pour commencer Gomme Pilote. Salut à toi.
Bonsoir.
Alors je précise qu'il y a aussi avec nous Poltergeist avec Lou. Bonjour à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir, vous avez raison. Alors vous l'avez peut-être déjà croisé en tant que guitariste du groupe post-punk, oh là là, je fais que de bafouiller, Unspeakable, c'est encore moins facile à dire, groupe qui s'est déjà produit pas plus tard qu'au mois d'avril à l'Antirouille Demande, donc ici en Lozère, pour les Before du Murderfest, mais c'est sous le nom de Gomme Pilote qu'elle est là maintenant. Alors, rebonsoir, on s'est déjà dit bonsoir, mais je te redis bonsoir, Gomme Pilote.
Bonsoir.
Donc ce projet musical en solo, il a officiellement vu le jour cette année, hein, c'est ça?
Tout à fait, oui.
Et depuis combien de temps il te trottait dans la tête, ce projet?
Alors en fait, depuis 3-4 ans, en fait ça a commencé un petit peu avant le confinement. Et puis en fait c'est quelque chose que j'ai développé en parallèle à Unspeakable. Et puis c'est des morceaux qui ne rentraient pas dans la même esthétique musicale, même si c'est un peu post-punk dans l'esprit, mais il y a quand même des sons beaucoup plus métal, électronique et pop, ouvertement pop, ce que n'a pas Unspeakable. Et du coup voilà, plutôt que de monter un énième groupe, je me suis dit je vais essayer de défendre ça tout seul et d'embêter personne. et voilà, voilà où on en est aujourd'hui. Voilà.
Alors, il faut bien s'imaginer, j'ai vu tes balances tout à l'heure, donc tu as un petit boîtier, il y a plein d'instruments qui rentrent dedans, et toi, tu chantes dessus et tu joues de la gratte, c'est un peu l'idée.
Qui rentrent dedans
dans ce petit truc, tu demandais un peu plus de basse, un peu plus de batterie, un peu moins de batterie, donc il y a tout dans ce boîtier, en fait, tout est indépendant.
Oui, en fait, c'est parce que je travaille beaucoup, évidemment, sur ordinateur et je prémixe, si vous voulez, tout ce que je fais. Je suis très nerd devant mon ordi, quoi. Et du coup, mon sampler, j'envoie des, si vous voulez, des tranches, des couches d'instruments. Et donc après, j'ai plusieurs configs suivant qui c'est qui me reçoit. Et là, ce soir, bah, j'ai la config avec tout en séparé. Donc c'est génial, super, très très bien reçu par l'OGR, par les équipes de LLS. c'est ça, quoi. Après, c'est la balance, quoi. Je demande un peu plus de caisse claire, un peu plus de kick ou moins de basse en fonction de l'équilibre sur le plateau, quoi.
C'est génial de pouvoir le faire tout seul parce qu'en fait, au final, t'arrives pas avec une bande son faite. Tout est séparé.
Ça permet à l'ingénieur du son de la soirée de s'adapter au lieu, quoi. Et ouais, c'est pas mal.
Comment tu définis ton style ?
Franchement, alors, je dis que je fais de la chanson métal gender fluide, mais je dis ça parce que c'est un jeu de mots. Bon, déjà, c'est pour rendre hommage aux cultures queer, mais aussi gender fluide, c'est parce que, donc, en français, on traduit ça par la fluidité de genre. Et en fait, dans ce cas-là, c'est la fluidité des genres musicaux. Parce que vous allez voir du métal, mais moi, je définis. Ce que je fais, c'est pas de la musique vraiment de métalleux. C'est plutôt. Ce qui m'intéresse, c'est le propos des chansons, et ça parle d'identité, des chansons d'amour, de développement de soi. Là, ça fait un peu, vous savez, les bouquins de développement personnel, mais bon, il y a un peu de ça dans les textes que j'écris, malheureusement. Et du coup, voilà, fluidité des genres musicaux. Donc voilà. J'ai pas trouvé de meilleur nom que ça, et je trouve ça rigolo. J'aime bien les jeux de mots, voilà.
Donc c'est plus une blague ou toi tu te définis comme un artiste de la communauté LGBT ?
Oui, enfin, je pense. Des fois, c'est toujours un petit peu... comment dire ? Je suis toujours un peu stressé parce que je comment dire ? En fait, ça fait quelques années en fait, que je me suis vraiment identifié comme personne non-binaire. Et du coup, je me sens des fois un peu... Ce projet m'aide aussi à affirmer ça, en fait, publiquement, quoi. Je me sens des fois un peu fragile de le dire en public, donc ça m'aide à ça. Et du coup, voilà. Donc, ouais, c'est inclus là-dedans, c'est sûr.
Je vais mettre mon câble ailleurs. Justement, parlons-en. Tu parlais d'amour tout à l'heure. Avec ta page et le planning, on a mis vraiment des problèmes encore, des choses qui ont évolué. On oublie l'amour souvent quand on parle d'LGBTQIA+, je trouve. Toi, t'aimes en parler ?
C'est dire que je réfléchis beaucoup à ça et comment ma propre conception de l'amour, quoi. Mais après, en parler, je parle juste de moi, de ce que je ressens, quoi. Après, dans les chansons. C'est les gens évidemment qui se projettent dedans et qui peuvent y voir le message qu'ils veulent, quoi. Mais après, je pense que l'amour c'est une
un concept universel.
C'est universel, voilà.
Voilà, et il existe sous autant de formes peut-être qu'il y a de personnes, donc voilà.
Et tu reprends, je crois, des chansons aussi de chanteuses connues françaises.
Je comprends pas pourquoi vous dites ça. Oui, effectivement, oui. En fait, j'ai des compos solo, évidemment, mais j'ai en projet un album de reprises. Pour le coup, ça, c'est vraiment dans le style doom metal, que de chansons d'amour chantées par des femmes, je vais jouer un petit.
Tu peux en citer deux, trois des artistes que tu reprends ?
Oui, j'ai repris Françoise Hardy, j'ai repris une rappeuse qui s'appelle Anta. Ce soir, je vais vous jouer du Céline Dion. Et là, j'ai quoi ? J'ai du Niagara en préparation. J'ai des choses en. Voilà. Mais ça ressemble pas vraiment aux originaux. Mais j'adore les textes d'amour en français.
Moi aussi.
En fait, si on les interprète avec la bonne gravité, ça peut devenir vraiment chouette.
Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc tu as démarré cette année, hein, comme on le disait, ce projet musical en solo. Tu as déjà fait des scènes, il me semble.
Oui, mais pas beaucoup. Et c'est alors, le sixième concert ce soir.
Comment tu te sens tout seul sur scène, ça va ?
Un peu tout nu, ouais. Mais ça va, j'ai l'impression que c'est de mieux en mieux, donc vous me direz ce que vous en aurez pensé.
Tout à fait, on te le dira. On peut aussi dire, c'est bientôt fini, j'ai encore une toute dernière question pour toi, que tu es un illustrateur avant tout. Tu as participé à l'affiche là, cette année du Murderfest dont on parlait en tout début. Tu vas aussi te présenter au Murderfest, toi en tant qu'artiste en solo. Tu peux nous dire peut-être où on peut voir tes productions, est-ce qu'on peut les retrouver, tes productions, tes dessins?
Sur Instagram, sur ArtStation, sur Facebook. En fait, si vous cherchez Gomme Pilote sur Internet, vous allez trouver très facilement tout mon... à la fois... la musique, mais aussi mon portfolio d'illustrateur, illustratrice, et voilà.
Et ben c'est parfait. On retient ton nom, Gomme Pilote. Merci beaucoup d'être passé par ici.
Merci à vous.
Et bonne soirée, et on te retrouve tout à l'heure alors.
Merci.
On enchaîne, hein, pas
on
de
enchaîne
transition.
Tout de suite, pas de transition musicale puisqu'ils sont déjà installés.
Et surtout, ce qui est génial, c'est que vous nous faites l'honneur, vous, artistes, à quelques minutes de monter sur scène, d'être avec nous. Merci beaucoup. Poltergeist.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, la question, elle est simple. Hein. La première, c'est Poltergeist, ça veut dire quoi? Ça vient d'où tout ça?
Poltergeist, ça vient d'Allemagne, ça veut dire esprit frappeur. Je pense que ça convient bien à ma personnalité en tout cas et à ce que ça donne sur scène.
Et c'est pas aussi inspiré d'un film Poltergeist?
Si, un film des années 80, ouais, qui est pas forcément l'inspiration principale du projet pour le coup. Mais...
On l'a pas vu. Vous l'avez pas vu? Oh là là, redites-le.
Ta frangine se fend la gueule à côté de toi sans micro. Enfin, auditeur, auditrice, venez voir, c'est vraiment génial. Justement, comment tu définirais aussi ton style musical en fait? Frappeur, certes,
ouais.
Mais quel style?
Alors,
si tant est qu'il faut caser toujours les trucs dans...
Ouais. Bah, je pense que dès lors où on est sur un programme, je pense qu'on est un peu dans l'obligation de se raccrocher à un courant musical. Moi, je me définis comme Electronic Cold Wave. Mais pas que, quoi. C'est emprunt de beaucoup d'esthétique et de musique de traverse. Donc autant l'électronique allemande, l'électronique anglaise, la cold wave, la new wave, et je pense que électronique cold wave, ça me convient bien, ça regroupe bien tout ça.
Et justement, quelles sont tes influences dans ce genre de musique? D'où t'écoutais quoi quand t'avais 10 ans, 12 ans, 13 ans?
Alors, quand j'étais plus jeune, j'écoutais pas du tout ça. J'écoutais de la soul, du rhythm and blues, Sam Cooke, Aretha Franklin.
Ah, on est aux antipodes, là, pour le coup.
Complètement, ouais. Et dès lors où j'ai découvert cette scène électro d'Angleterre, et plus récemment d'Allemagne, ça a été pour moi vraiment le choc. Et j'en ai fait ce pourquoi je suis là aujourd'hui. Et ouais, c'était vraiment le gros déclic pour moi et la grosse passion. Et pour le coup, mes influences, ça vient plutôt de l'Angleterre, des années 70, 80, avec des groupes comme New Order ou Joy Division, plus récemment Baxter Dury, et des groupes allemands comme Kraftwerk, par exemple, ou un groupe français qui, pour moi, était un gros déclic, c'est Compromat, et dont je m'inspire beaucoup, en tout cas, dont je me suis beaucoup inspiré pour monter le projet.
Voilà, donc beaucoup d'inspiration, d'univers variés, mais tout commence, il me semble, du conservatoire.
Oui, c'est ça.
Tu as une culture de l'apprentissage de la musique un peu classique, on peut dire ça.
Ouais. Je pense que c'est quelque part une différence qui se ressent dans la production d'un morceau. D'avoir cette base de musique savante qui est, pour le coup, très école et très cadrée. Et au conservatoire, on nous apprend pas justement à faire ça, à monter ton projet réellement, à le sortir sur scène. Bien que en classe de musique actuelle, on y vient tout doucement quand même. Mais du coup, j'ai un apprentage de la musique que beaucoup ont malgré tout. On se rend compte que beaucoup de producteurs ont une base de conservatoire.
Tu avais un instrument en particulier que tu jouais?
Ouais, je faisais du violon. Donc j'ai fait du violon pendant une dizaine d'années. Donc j'allais à l'orchestre à cordes, j'allais à la musique de chambre, tout ça. Et petit à petit, j'ai dérivé vers la guitare avec la soul, le jazz, le rhythm and blues. Et puis après, j'ai découvert les machines et je suis bloqué.
Et t'es en plein dedans.
Mais peut-être aussi le conservatoire. Alors, on peut en avoir l'image qu'on en a assez figée, etc. Mais ça apprend peut-être une discipline parce qu'il faut une vraie discipline quand on tourne. Je sais pas si t'es intermittent ou quoi. Voilà, mais vraiment partir en tournée, faire des dates, etc. Bosser comme un dingue. La musique, c'est un taf de ouf. Ouais. Peut-être que le conservatoire permet ça aussi et de se dire, grâce à ça, j'ai acquis des bases, même si. On laisse un peu après un tout petit peu de côté ce genre de choses. Toi, est-ce que ça t'a permis ça ?
Alors, je pense que ce pourquoi je fais ce projet aujourd'hui, c'est plus un investissement personnel pour le coup. Mais en tout cas, c'est clair qu'en sortant du conservatoire, on a quelque chose entre les mains, réellement. Et c'est en ça que c'est intéressant. Et beaucoup de personnes pensent que c'est pas abordable d'aller au conservatoire ou c'est une élite, mais pas du tout. Absolument pas. Et maintenant, il y a beaucoup de choses qui deviennent de plus en plus accessibles à tous. Et pour le coup, un projet comme celui-là, ça se forge avec le temps et les dates au fur et à mesure, quoi.
Le ton, c'était pas mal aussi. Hein. Ça se forge avec le. Mais oui, c'est sûr. Évidemment, Lou, tu vas nous dire un petit mot quand même. C'est le couteau suisse. Qu'est-ce que t'amènes justement à ton frangin sur une tournée ou sur des dates comme ça? Tu l'allèges, comment ça se passe pour toi?
Alors,
n'hésite pas dans le micro. Hein.
Par où commencer? Je ne sais pas. À la base, je suis plutôt bénévole sur des festivals dans des assos. Et au final, par accident et avec grand amour, je me retrouve à bosser avec mon petit frère quand même, c'est assez merveilleux. Beau-frère en même temps, bref, toute la famille, d'où cet asso qu'on a monté, la MIF, pour accompagner à la base les émergents. Donc moi qui n'étais pas sérigraphe, pas graphiste, pas non plus vidéaste, on s'est retrouvé à faire un petit peu tout avec des bouts de ficelle. Et puisque ça a bien marché pour le petit frère, on a fait en sorte que ça puisse marcher pour d'autres.
C'est à Chalon-sur-Saône, je ne sais pas si on l'a précisé, hein. Vous êtes de Chalon-sur-Saône.
Ouais, c'est ça, en région Bourgogne, ouais. Du coup.
Voilà. Et pour ton petit frère, ça a plutôt bien marché puisqu'il a signé, je crois, avec Vitalik, qui n'est pas n'importe qui dans le milieu de l'électro.
Ouais, bah pour moi, c'est une inspiration certaine maintenant et c'est un énorme plaisir, quoi.
Et donc là, tu viens de sortir ton tout premier album, c'est ça ?
Ouais, le premier album est sorti en juillet 2022, le 1er juillet 2022, et c'est un album signé sur le label de Vitalik et ça fait sens, en tout cas pour moi, dans l'esthétique dans laquelle je me retrouve, en tout cas.
Tu peux dire le titre de l'album ?
Ouais, l'album s'appelle Kampfer, qui veut dire combattant en allemand.
Support CD vinyle ?
Ouais, tout à fait.
Alors, ça existe encore ?
Ah bah, plus que jamais, je crois, ouais. Maintenant, il y a tout qui sort en vinyle, même les BO de films, même les... Ouais, ça a été quand même un point d'honneur sur le fait qu'on voulait du vinyle. Qu'on voulait l'objet, en fait, avec cette pochette 30 par 30. Et le CD aussi, parce que le CD...
Ouais, ça va plus de soi, en fait. Ça va plus de soi quand on produit un album, de tout, faire ouais. du matériel.
Ah oui,
quoi, ça va pas de soi. Ouais.
Je pense que si on écoute les grosses industries, on va pas nous aiguiller vers le physique, en tout cas, mais plus vers le nuage digital.
Le cloud, comme il se fait appeler.
Non, j'allais dire qu'en tout cas, c'est péchu. Pareil, on a eu la chance d'entendre vos balances. Venez.
Tout à fait. Est-ce qu'on peut préciser l'heure ? On sait exactement à quelle heure tu passes tout à l'heure.
Ah, déjà qu'on a 20 minutes de retard, du coup.
Pourquoi je parle d'heure, moi, franchement ? Aucun respect.
Il me semble que c'était 22h30.
22h30. Allez, on part là-dessus. Merci beaucoup à
Merci
tous les
à
deux.
Merci.
Donc, on rappelle Poltergeist. Et merci d'être venu en Lozère. D'ailleurs, pourquoi vous êtes venu jusqu'ici, peut-être ?
Ah bah justement, c'est grâce à M qu'on a rencontré à Lorient. Donc, fabuleux petit bijou qui nous a demandé si ça nous intéressait. C'était à Clermont-Ferrand, pardon. Donc du coup, c'est à cause d'elle et grâce à elle. Et on est trop contents. Et on espère bien faire la même dans notre ville parce que pour le coup, ça n'existe pas.
Et bah voilà, l'appel est lancé. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Très bonne soirée.
Et on fait une pause.
Une petite pause, allez. On est fatigué, s'il te plaît, Arthur.
somebody in our circles. The embodied selfishness to its fullest. She has no motherfucking shame. She is cutthroat and envious from toe up. But she will never admit it though. She's by your side every single day, smiling at you, but wishing, praying for your downfall. But guess what, mid-aim? You got it all wrong, cause I figured you out from the beginning. Whatever, whatever, whatever she gets, whatever, it's never enough. Whatever, whatever, whatever she takes, whatever, whatever she wants. She wants your man, she craves your job, she dreams your life, and everything that, that goes with it. And everything that, that goes with it.
Je suis pas prête. Ça y est, si, c'est bon. Avec nous sur ce plateau, une troisième artiste, Dylan Dave. Salut à toi.
Salut.
Donc, je reprends un peu comment on te présente sur Internet, parce que j'ai un peu trouvé que ça de toi, sur toi. Donc, artiste indépendante, dont le style mêle Airbnb, hip-hop, afrobeat ou encore dancehall.
Oui.
Et ton dernier album vient de sortir en avril, Homme Fatal.
C'est exact, oui.
Alors déjà, est-ce que tu pourrais peut-être, artiste indépendant, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que tu fais tout de A à Z ?
Oui, je fais tout de A à Z, l'écriture, le mixage, et etc.
Et tu as des très beaux clips aussi. Tu es toute seule aussi pour faire les clips ?
Oui, pour les clips, oui, je suis tout seul. Et oui, tout indépendant. C'est trop beau.
C'est parti d'où ce désir d'indépendance ? Parce que beaucoup d'artistes s'entourent. Toi, tu as choisi d'être indépendant. Ça part d'où tout ça, en fait ?
Ça part peut-être du fait de vouloir tout diriger.
Ah, c'est une volonté de
contrôle. Au moins, on n'est jamais si bien servi que par soi-même.
Exactement.
Ton premier album, The Journal, est sorti en 2018, il me semble.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Ça date.
Comment ça a commencé toute cette histoire ? Parce que, donc, comme je l'ai dit, on ne trouve pas grand-chose sur toi, si ce n'est que tu as commencé à chanter à l'âge de 14 ans et que tu es originaire du Gabon. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu, en tout cas sur l'histoire qui t'a amené à faire de la musique ?
Alors, j'ai commencé à faire de la musique à l'âge de 14 ans, suite à des émotions personnelles de la vie. Je me suis mis à écrire des poèmes. Et ensuite, j'ai essayé de rendre ces poèmes en musique. Et ça m'a plu à l'oreille. Je me suis dit, pourquoi pas continuer dans ce sens-là. Et de là, j'ai appris à me développer dans ce milieu.
Voilà. Donc tout part plus de l'écrit d'abord, et c'est aussi une autre chose qu'on peut retrouver de toi, où tu dis que finalement tes chansons parlent beaucoup de tes propres histoires personnelles.
Exactement.
Où sont mêlés l'amour, alors je vais mettre dans l'ordre parce que je pense que c'est pas fait au hasard, l'amour, le regret et la rage. Est-ce qu'il y en a un qui a une plus grosse part que l'autre dans l'histoire ?
Je dirais plutôt une de mon dernier album Homme Fatal qui s'appelle Féminine. C'est l'une des plus personnelles que j'ai pu écrire.
Et plus d'amour, plus de regret, plus de rage ?
Plus de tout. De rage, d'amour, de lutte. Et ça a été vraiment celle la plus dure à écrire, surtout aussi.
Et pourquoi Homme Fatal ? Pourquoi ce titre ?
Homme Fatal, c'est une deuxième facette de moi. C'est un peu... une énergie. C'est un personnage que j'incarne quand ben, je me sens puissant, libre, très confiant. Mmh. Et ouais.
Alors, je suis en train de me rendre compte que je dis elle depuis le début, mais...
Peu importe.
Peu importe.
Il ou elle,
je préfère être clair là-dessus.
Ça, tant que toi, tu te sens bien, on peut dire...
Oui, je ne pose pas d'étiquette sur moi.
Et justement, est-ce que tout ça t'a inspiré, en fait, vraiment, dans ce que tu as écrit, ton parcours familial, amical, vital, etc. C'est rentré dans tes chansons?
Oui, tout ce que j'ai pu vivre a fait partie de ma musique actuelle.
Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'en vivre? Je ne sais pas si tu en vis. Est-ce que c'est facile de se produire
Pas vraiment. C'est pas très facile de se produire en étant comme je suis. C'est très difficile d'ouvrir des portes en étant minorité. Et je lutte. Pour l'instant, ça a l'air d'ouvrir des portes, mais on verra bien maintenant.
Pourquoi c'est important de préciser aussi que tu es originaire du Gabon? Il y a eu une influence dans ta manière de faire de la musique?
Non, pas forcément. Non.
Mais non. Tu tiens à le préciser?
Non, vraiment, non. Pas du tout.
Ok. C'est en tout cas ce qu'on retrouve de toi sur Internet. pourquoi vous avez choisi de venir ici en Lozère? Vous connaissiez la Lozère déjà ou pas?
Non, je ne connaissais pas du tout, mais ça m'a tenu à cœur de venir ici pour ce moment de Pride, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire et c'est un objectif réussi.
C'est la première marche des fiertés que vous faites en campagne, en fait, où vous venez vous produire ici en Lozère, c'est ça?
C'est vraiment la toute première marche des fiertés que je fais sur scène.
Eh bien, écoutez, merci de nous faire cet honneur, alors. Très bonne soirée.
Merci beaucoup à vous aussi.
Et juste avant, pardon, on peut juste dire un mot sur ta tenue qui est absolument magnifique.
Merci.
Est-ce que c'est toi qui l'as fait? Comment ça s'est passé?
Non, c'est quelque chose que j'ai commandé sur Internet et j'ai customisé.
Toute seule, quoi.
Toute seule, toujours.
Mais venez le découvrir, auditeur, auditrice, Dylan, tout à l'heure.
Dylan Dave, merci beaucoup encore. Et on enchaîne sur une petite pause musicale. Arthur, si tu es disponible, merci.
J'ai écouté les échos, il paraît que mon nom résonne. On dit Sienna en freestyle quand t'as pas fait mieux que les hommes. On l'a ça voulu tester, maintenant y'a personne à l'horizon. Tu m'as dit ce que je fais, c'est énorme. Garde la tête sur les épaules, je perds pas le nord, pas le nord. D'après la concu, je rentre pas dans les nords. Je m'amuse à kicker plus vite que mon ombre. Ils parlent de la tête, ils nous connaissent pas. Si on a la tête dans les étoiles, c'est peut-être qu'on a besoin d'espace. On espère, mais on se perd à trop vouloir de l'espèce. On veut s'en sortir, mais là où on vit, y'a plus d'espoir. On veut rouler sur l'or, mais pour ça faut le mec couper sport. AMG gros bolide, je m'arrête pas même si c'est la police. Je les monte en l'air comme un trampoline, je fais une croix sur eux comme si j'étais catholique. Amen, 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 amen. Tant que ma famille va bien, je m'en fous de savoir où t'as mal, qui t'a blessé. Et c'est pas à cause de moi si le coup part, c'est de la faute à l'ambiance, oui car elle est palpable. Y'a que Dieu qui nous protège, pourquoi t'as mis le pare-balles? Y'a des erreurs dans la vie qui ne se réparent pas. On a trouvé les victimes mais pas encore les coupables. Dehors tout le monde sait c'est qui mais tu sais on n'en parle pas. On a des points communs toi et moi mais nous compare pas. Tu te demandes c'est kick. Tu critiques mais tu kick. Joue pas les grossistes à Marseille, tu sers à rien comme ta ric. Cette année je vais m'accaparer de force ou de gré, en vrai c'est pareil. Je reviens dans le game comme les Savastano. Prends la fuite avant qu'on t'arrose. Autant mitrailler qu'on trahisse. Tout ce qui maïs. Je connais des forceurs aussi des faux culs. Je les fuck, il faut que je m'en occupe. Aussi grillé que là-bas quand faut focus. Achale andek, achale focus. Là où je vais, je fous le dawa. Je rajoute mon grain de sel dans le kawa. Ta meuf paraît que c'est un bolide. Mais appuie de la ouh, passe là au carouache. Flow qui débite, c'est Siana. Toute la France, je l'ai sillonné. Ramène la concu s'il y en a. Que je leur rayonne. Je me tape des barres de rire. Tester à tes risques. Je vais te licencier. Tire à faire de l'intérim. Y'a rien de terrible. Bang, bang, bang. Bitch.
Alors, comme on l'a dit en tout début d'émission, la Marche des Fiertés, c'est non seulement un événement festif, mais avant tout aussi revendicatif, à la fois pour rendre visibles donc les droits des personnes LGBT, revendiquer une égalité de traitement, quelle que soit son identité de genre ou son orientation sexuelle. Et pour tout ça, il y a des associations qui sont des acteurs majeurs qui accompagnent toutes ces personnes dans leur quotidien pour leur garantir un accès à la santé, faire du dépistage, de la prévention. Et vous en faites partie, donc je vous présente, je cesse de parler trop. Donc nous avons avec nous Lydiane et Daniela pardon, du CEGID Demande. Est-ce que vous pouvez nous dire en entier ce que ce sigle veut dire ?
Donc le CEGID, c'est le Centre gratuit d'information, de diagnostic et de dépistage des IST. C'est très bizarre de s'entendre, j'ai l'impression que je parle au ralenti.
On s'habitue après.
Okay. On s'y fait.
Et nous avons également avec nous Marina Darap Rubi. Donc pareil, est-ce que vous pourriez nous dire ce que ça veut dire ?
Alors Darap Rubi, en fait, c'est une association qui a été créée en 1996 avec un pôle prostitution. Il y a eu un lab qui a été créé pour un lieu d'accueil enfants-parents. De là, il y a eu un pôle LGBT. Depuis 2 ans et demi, il y a un pôle transidentité que je m'occupe.
C'est ça. Et ARAP, donc c'est Association Action Prévention
Réflexion.
Réflexion, c'est ça, j'avais raté une lettre. Et prévention.
T'inquiète pas, c'est la seule que je me souvenais.
Ah ben, on se complète, c'est parfait. Donc vous nous venez de Nîmes, hein, ARAP Rubi. Donc comme vous l'avez dit, à la base c'est de la prévention. Enfin, c'est d'abord orienté. Ouh là là, mes feuilles s'envolent. Orienté pour les. Putain.
Je suis avec toi.
Orienté prévention des infections VIH, IST, mais donc ça a évolué. Hein. Quels sont vos différents champs d'action, donc en dehors de ceux que vous avez déjà cités ?
Alors là, comme je t'ai dit depuis tout à l'heure, moi je m'occupe depuis 2 ans et demi du pôle surtout transidentité. Donc je viens dans l'accompagnement des personnes trans, surtout le long de leur parcours. On ne le répète pas assez, mais il n'y a pas d'obligation dans le parcours. Mais dans le principe où une personne a besoin de tout ce qui peut être possible et inimaginable, je l'accompagne aussi bien dans sa transition sociale, médicale qu'administrative.
Et quels sont les principaux, s'il y en a, problèmes rencontrés par les personnes qui viennent vous voir ? Est-ce qu'il y a, je sais pas, la santé c'est plus un souci qu'un autre secteur ?
Le premier souci, c'est souvent la transition sociale. Donc c'est la famille, les amis, le travail. Le travail, on n'y pense pas assez, mais c'est un gros souci qu'a les personnes. Après, il y a le côté médical où on manque beaucoup de professionnels de santé.
C'est-à-dire qu'ils soient formés, en fait, à prendre...
Oui, en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de professionnels santé aujourd'hui formés sur la transidentité. Exemple tout bête, c'est qu'aujourd'hui, depuis 2 ans, il y a ce qu'on appelle un DU, accompagnement soins et santé des personnes trans, pour justement libérer des spécialistes sur la transidentité. Et ça fait que 2 ans que ça existe. Et je fais partie de la deuxième session, et on est 30 personnes. Donc en 2 ans, 60 personnes. Sur tous les corps de métiers qui touchent à la transidentité.
Est-ce que, au travers de votre asso, vous alertez les pouvoirs publics justement sur ce manque-là ? Et est-ce qu'ils sont alertes sur faire un clin d'œil à alerte, pardon, je n'ai pas fait exprès. Est-ce qu'ils sont alertes par rapport à ce que vous pouvez leur dire ?
Alors, avec l'association, du moment que ça touche notre secteur, vraiment, en gros, tout le Languedoc. On rentre en contact à direct pour faire bouger les choses. Quand je vois que je bloque, je fais aussi partie de Transsanté France, où je leur remonte tous les problèmes nationaux que je rencontre.
Il y a aussi un pôle donc formation auprès des professionnels hein, de votre structure. C'est quoi les préjugés qui persistent à l'heure actuelle en 2023 ?
Les préjugés qu'il y a, c'est surtout avant la formation. Une fois qu'il y a la formation, quand on sait choisir les bons mots et qu'on y va avec de l'ouverture d'esprit, de la bienveillance, on s'aperçoit que les choses changent. C'est rare qu'aujourd'hui que sur toutes les formations qu'on a pu faire ou s'entourer, de pas voir les regards changer. Je pense que c'est un manque de connaissances.
Et vous diriez, parce que vous voyez aussi des futurs professionnels, donc des jeunes, est-ce que vous direz qu'ils sont plus alertes ? Donc pareil, pas fait exprès le jeu de mots, mais bref,
Est-ce qu'ils sont beaucoup plus de jeunes professionnels aujourd'hui s'intéressent au sujet de la transidentité.
Basculons sur vous, le CEGID. Alors, il faut que je retrouve ma feuille, j'ai beaucoup trop de feuilles.
Le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic du VIH, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles. Vous êtes ici au centre hospitalier de Mende. De quels moyens dispose le CEGID aujourd'hui en Lozère? Est-ce qu'ils sont suffisants? Commençons par direct par ça.
Oui, effectivement, on est un petit centre qui correspond bien à la population de la Lozère. On est deux infirmières, deux médecins, un secrétariat et on bénéficie en fait bien du plateau technique de la Lozère, de l'hôpital.
On vous retrouve au centre hospitalier de Mende, hein, c'est ça Vous en dépendez? Vous êtes, c'est quoi le...
Non, on est un service de l'hôpital de Mende.
Okay.
Toi, t'es vraiment à l'origine, enfin, t'as connu le début de ce CEGID. Comment ça s'est passé un peu? Quand est-ce que c'est né un peu tout ça?
Alors, le centre de dépistage a été créé dans les années 90 par un médecin du service qui s'appelait Dr Paul Messonnier. Donc, il a commencé tout petit et moi, je suis arrivée en 2007. Ça a été encore les CDAG. Voilà, c'était les centres de dépistage gratuit anonyme. Et ça évolue plus vers l'ouverture vers les autres dépistages des IST. Et avec la grosse réforme qu'on a eue en 2016 pour les CEGID. Et là, vraiment, l'ouverture aussi à la santé sexuelle. Voilà.
Voilà, parce qu'il y a eu une extension des missions, hein, c'est ça. Donc, en dehors de santé sexuelle, il y a d'autres choses, prévention des violences, contraception, avortement, vous prenez tout ça en charge. Comment ça se passe quand on vient vous voir? C'est quoi le...
Donc, quand on vient nous voir, ça peut être avec rendez-vous, mais aussi sans rendez-vous. Il y a la possibilité d'être anonyme. Bien sûr, tout est gratuit et ensuite on est reçu par une infirmière qui va faire le bilan de dépistage nécessaire en fonction de la situation et des prises de risque.
Les principales raisons pour lesquelles on vient vous voir, c'est plus pour du dépistage, pour de la violence, pour de l'avortement. C'est quoi là actuellement quoi,
on a beaucoup de demandes de tests et de l'information générale sur la santé générale. C'est un peu nos principaux.
Et ça veut dire que les gens, ils manquent d'informations encore à l'heure actuelle?
Ah oui, 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 il y a quand même pas mal de gens qui ne connaissent pas les modes de transmission et comment on peut la soigner, les maladies ou pas.
Alors, c'est ça, hein, ce qui est fou, c'est j'ai 40 ans, pardon, désolé. Dans mon adolescence, vraiment, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites à l'école par rapport au VIH, etc. Et au plus je fais ce métier, et au plus des gens me disent qu'au collège et au lycée, il y a de moins de choses qui se passent et qui se font sur la prévention, sur ce qui existe. Le sida existe encore aujourd'hui, etc. Est-ce que c'est faux ou alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous le voyez, vous, toutes les trois, en fait, hein, dans ce que vous vivez, en fait? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec les MST en général?
Ben, c'est sûr qu'il manque les trois séances d'éducation à la sexualité qui devraient être obligatoires à chaque niveau scolaire et qu'il y a encore des personnes qui viennent nous voir avec vraiment un manque de connaissances, surtout qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, notamment pour la prévention diversifiée du VIH. Maintenant, il existe la PrEP, par exemple, le traitement préventif pour éviter d'attraper le virus quand on a des comportements sexuels à risque. Il existe un traitement post-exposition, aussi quand il y a eu des rapports non protégés et qu'on est inquiet. Il existe aussi maintenant un traitement qui est mis d'emblée et qui permet d'avoir une charge virale indétectable et donc de plus transmettre le virus. Donc, et tout ça, je crois pas que ce soit vraiment connu du grand public.
Pourquoi c'est... Pardon, allez-y.
Je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai qu'avec l'association, nous, quand on intervient sur, justement sur tout ce qui est santé sexuelle, tout ce qui est monde LGBT, le sujet de la transidentité. Donc, effectivement, on met en avant tout ce qui est prévention et dépistage, puisque à l'association, on fait aussi ce qu'on appelle des TROD pour dépister le VIH, l'hépatite B et C. Mais après, c'est vrai que si on reste sur l'année complète, je pense qu'on manque encore d'accès au lycée et au collège.
Parce que ça allait un peu dans ce sens, ma question. Pourquoi c'est important de venir dans des événements comme ça, de marche des fiertés, de venir faire de la prévention? C'est que vous avez vous-même du mal à cibler, là on parle de personnes LGBT précisément, vous avez du mal à les toucher?
Ah non, moi je vais te dire franchement pourquoi je suis venue, c'est parce que je me suis fait engueuler l'année dernière de ne pas être venue.
Ça c'est dit.
Ben non, nous on est là parce qu'on pense que c'est important de dire que de façon anonyme et gratuite, on peut être dépisté et qu'il est toujours bon de faire de la prévention, de l'information. C'est des sujets de santé publique, donc c'est essentiel.
Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à une recrudescence, selon vous, et c'est un avis très personnel, mais du milieu dans lequel vous êtes, une recrudescence des tabous par rapport à la sexualité et par rapport à tout ce qui peut la concerner, hein, ça, de l'amour jusque la MST?
Je ne peux pas répondre à cette question. Est-ce qu'il y a une recrudescence des tabous? Aucune idée.
Moi, je trouve que c'est plus compliqué aujourd'hui de parler de la sexualité qu'il y a 30 ans. Voilà, parce que...
Auprès des jeunes?
Auprès des jeunes, ah oui. Ouais.
Vous les sentez gênés, quoi?
Non, je les sens gênés et perdus. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont du mal à se situer dans leur sexualité. Et c'est très compliqué pour eux, de trouver des professionnels qui peuvent les guider.
Et vous l'expliqueriez comment, ça? C'est parce que trop de... Peut-être on en a trop parlé, du coup aujourd'hui on veut moins en parler. Enfin,
je sais pas, je pense qu'il y a des phénomènes qu'on a aujourd'hui dans notre société qui changent, qui a beaucoup changé. Et voilà, c'est des changements que je peux pas analyser non plus.
Je pense aussi que ça a surtout beaucoup évolué sur pas mal de points. Aujourd'hui, l'homosexualité, on en parle beaucoup plus facilement, même s'il reste encore plein de choses encore à faire. La transidentité aujourd'hui, par rapport à l'homosexualité dans les années 90, qui était très compliquée, aujourd'hui, même la transidentité est quand même mieux acceptée encore que dans les années 90 au niveau de l'homosexualité. Donc il y a des choses qui avancent. Bien sûr que pour le moment, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore parfaites et c'est pour ça qu'aujourd'hui, une marche comme aujourd'hui, ça reste encore important parce qu'il y a encore des combats à mener.
Est-ce qu'il y a une augmentation là dernièrement aussi des infections sexuellement transmissibles chez les jeunes qui, on peut peut-être se dire, il y a un petit relâchement parce que voilà, aujourd'hui, on est plus au courant, on croit être plus au courant et du coup, on fait peut-être moins les démarches aussi.
Mais il y a eu une augmentation des chiffres. Mais c'est parce qu'il y a aussi beaucoup plus de dépistage.
Voilà. D'accord, donc c'est ça. Et il y a aussi, je crois, la variole du singe qui est en train d'exploser un peu. C'est toujours le cas, ça?
Alors, ça a été surtout l'été dernier. Nous, on s'est mis à vacciner. Voilà, on a reçu des gens pour les vaccinations. Et actuellement, il y a eu 17 cas dans un autre département. Mais depuis le 23 mars, il y a plus de cas détectés. Mais bon, ça reste quand même recommandé à continuer à vacciner la population ciblée et faire la prévention.
Oui, et puis surtout aussi, profitez-en, il y a des préservatifs gratuits partout, mais prenez-les, vraiment. Et pourquoi ils ne sont pas gratuits partout, ouais?
Alors normalement, les préservatifs sont gratuits en pharmacie pour les jeunes de moins de 25 ans.
Ah oui, j'allais vous demander, c'est quoi être jeune en fait?
Oui, tu ne l'es plus. Voilà, c'est fini.
Raté.
Non, mais après on peut les avoir aussi sur ordonnance. Voilà.
Donc on peut aller chez le médecin et dire comme les patchs pour arrêter de fumer. Sachons-le aussi.
Merci beaucoup à toutes les trois d'être venues nous
Merci
voir. Donc on peut préciser qu'à Mende, on vous retrouve donc le CEGID à l'hôpital de Mende. Voilà. Merci.
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 On fait une petite pause et puis on va finir avec un petit peu d'art aussi. Ça ne va pas faire de mal.
Un peu de dessin.
Arthur, c'est parti. Merci beaucoup du fond du cœur. Merci.
Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. No, I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine.
Allez, c'est notre dernière artiste. Après, on vous laisse tranquille et on vous laisse profiter des concerts. Faisons place à Rizzo Boring. Salut à toi.
Salut.
Rizzo Boring, tu es artiste, dessinatrice et activiste. Putain, je vais plus y arriver, ouais. Je fais que bégayer, c'est terrible.
C'est comme on est au parc de Montréal.
Voilà, exactement. Là,
j'ai vécu le même moment que toi l'année dernière.
Je recommence tout. Je disais donc, vous êtes artiste, dessinatrice et activiste queer. Vous nous venez de Rabastens, comment on dit cette ville ?
Rabastens,
voilà, donc c'est au nord-est de Toulouse. Donc vous nous proposez pour cette deuxième marche des fiertés de Lozère une petite exposition, c'est tout juste derrière nous, accroché dans les arbres, des dessins. Donc dessin et activisme pour vous, c'est indissociable ?
Ça peut être séparé, en tout cas je trouve que dans les luttes on a besoin de visuels, d'images, de représentations. Et que ça, moi, quand j'ai commencé à être Gwyn, j'avais 20 ans et il n'y avait aucune image. Et du coup, je n'avais pas fait d'école de dessin ou de... voilà, je ne savais pas dessiner. Je ne sais toujours pas trop dessiner.
Ouais, quand même.
Mais j'étais dans le milieu punk. Et dans
je
le milieu...
fais un petit bonhomme bâton, si tu veux.
Voilà, c'est ça. Vraiment, hein. Pareil.
En tout cas, j'étais dans le milieu punk. Et dans le milieu punk, il y avait ce truc de « c'est pas grave si tu ne sais pas jouer, c'est pas grave si tu ne sais pas dessiner, finalement, tu peux quand même le faire ». Et voilà, je me suis mise à le faire et voilà, ça fait 20 ans que je fais des trucs comme ça.
20 ans. Et je crois que tout a démarré, parce que donc, tu l'as dit, tu n'as aucune formation en art plastique, tu n'es pas passé par l'école de beaux-arts ou quoi. Tu as une formation en sociologie et ça vient de la...
Mais qui a des dossiers sur moi ?
Ah bah ça, tu sais, Internet maintenant, on trouve tout ce qu'on veut.
Ah merde. Oui, j'ai été à l'université en socio, mais j'ai surtout bossé dans la santé communautaire. Dans des assos à Toulouse. Et je ne sais plus ce que c'était la question. Parce que
du coup, c'est via la socio que tu t'es mise à dessiner pour la première.
Ah, parce que je m'ennuyais dans les cours, en fait. Ouais, c'est ça. Et que je voulais me faire un tatouage aussi. Je m'étais dit, si je me fais tatouer, il vaut mieux que ce soit moi qui le dessine. Et du coup, j'ai commencé à dessiner et j'ai aucun tatouage.
C'est vrai.
Mais je fais des dessins. Vrai,
comment, finalement, de l'art à ton engagement, en fait, il n'y a eu qu'un pas. Comment t'es devenu... déjà, ce mot, j'ai du mal à le définir. Comment on devient activiste, en fait?
Moi, je me disais militante, plutôt. J'habitais à Lyon. Il y avait des collectifs. Enfin, j'ai commencé à rallier des collectifs, par exemple, de personnes sans papier qui s'organisaient, qui occupaient des églises. Enfin, en fait, j'ai commencé à venir comme ça quand on avait besoin d'aide et tout ça. Et puis, j'ai continué. Aujourd'hui, je milite très peu parce que je suis handicapée maintenant et j'ai une maladie chronique. Et du coup, c'est très difficile le rapport à la fatigue, au temps, à l'énergie. J'arrive plus du tout à faire ce que je faisais il y a 20 ans. Et du coup, maintenant, j'essaye aussi de faire des images qui portent un peu ces luttes handi, qui sont très invisibilisées dans les milieux de gauche. C'est comme si le handicap, c'était juste un problème de santé, puis c'est bien dommage pour nous, quoi. Alors que c'est la société qui nous handicape en majorité. C'est le fait qu'il n'y ait pas d'organisation sociale qui compense nos difficultés médicales. Et tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout encore très diffusé dans les milieux de gauche, d'extrême gauche.
On sort de l'épreuve de philo là, du bac. L'art se doit-il d'être engagé?
Merde. Mais moi, déjà, je me suis jamais trop dit artiste. Je pense que maintenant, c'est sur mes bios et tout ça. Mais c'est vrai que j'avais plutôt l'impression que je fabriquais des images. Je fais de la gravure, je recopie des dessins, des fois, ou des photos. J'ai pas un discours sur ce que je fais. Je pense que c'est ça qui s'apprend dans les écoles d'art, beaucoup.
C'est embêtant, ça, parce qu'on est là pour te poser des questions. Si t'as rien à dire sur ce que tu fais, comment
on
fait?
Non, mais je veux dire, j'ai pas de concept derrière ce que je fais. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, être artiste, c'est être capable de produire un discours très construit autour de ses intentions et tout ça. Donc ça, je sais pas faire. Donc je me sens pas trop artiste. Je me sens un peu artisane du dessin et de la gravure. Et voilà.
C'est pas plus mal de pas avoir des discours tout préparés aussi des fois. On trouve dans tes dessins, il y a beaucoup de textes. Moi, j'ai eu l'impression qu'ils fonctionnent un peu comme des slogans. Alors, je sais pas si t'es d'accord avec ça. En tout cas, il y a de la BD. Il y a une influence un peu de BD. Il y a des discours. Il y a des évolutions de petites histoires. C'est quoi déclenche quoi? C'est plus le texte. C'est plus t'as une idée d'image. C'est quoi qui vient en premier?
C'est un manque de représentation au début, je pense. Je me dis, est-ce que... Aussi, je faisais des t-shirts avant, des patchs pour les porter sur soi, aussi coudre. Et du coup, je sais pas, je me disais, bah, y a rien sur les gouines, donc j'ai fait un truc qui s'appelle Vive les gouines, en reprenant le symbole qui était plutôt le symbole des homophobes avec les deux doigts et la langue, quoi. Donc c'est toujours essayer de détourner, trouver un truc qui est un peu marrant. Et aussi pas mal de trucs d'histoire. Je crois que ça m'intéresse aussi qu'on s'inscrive dans une histoire en fait des lesbiennes notamment, mais des minorités en général. Et du coup, j'en ai fait un par exemple il y a pas longtemps sur Rosa Bonheur, qui est une peintre qui a eu une expo en ce moment au musée d'Orsay, qui était lesbienne, qui avait deux compagnes dans sa vie à qui elle a légué tous ses biens, qui habitait avec elle, qui s'est enterrée avec elle, à qui elle a écrit un testament disant qu'elle les aimait, qu'elle aimait pas le sexe fort. Et en fait, aujourd'hui, elle est pas dite comme lesbienne. Elle est dite comme oui, on sait pas, c'est bonnes amies. Donc quand je vois tout ça, c'est hyper rageant en fait, se dire bah ça veut dire que dans plusieurs années, on va encore décrire enfin visibiliser en fait, on va faire sortir de l'histoire certaines minorités. Donc j'ai fait une gravure qui s'appelle où c'est marqué Rosa Bonheur était lesbienne.
c'est clair,
moi c'est clair.
On l'a abordé avec les artistes et les assos qui sont là. Il y a tant de combats. Hein. On parlait effectivement du mouvement LGBTQIA+. Tu as parlé du handicap puisque tu en souffres toi-même. Est-ce qu'on souffre du handicap, je pense?
Du validisme, en tout cas de la discrimination que vivent les personnes handicapées, oui.
Est-ce que parfois tu en as eu marre et te dire « j'arrête de me battre » ou alors il y a des lueurs d'espoir pour toi en train de te dire « je m'arrêterai jamais » parce que de toute façon... il faut continuer le combat.
Je pense que de faire des dessins, des fanzines, des productions, c'est quand même une manière qui me confronte assez peu aux violences du militantisme aussi. Genre, j'arrive plus à aller en manif, par exemple, j'ai peur de la police, surtout en étant handicapée, sans pouvoir courir et avec toutes les violences qu'il y a eu. Enfin, j'ai l'impression que je... Mais plus du fait aussi de mon handicap, qui fait que j'ai très peu d'énergie, et du coup, j'arriverai plus à faire de l'activisme qui demanderait énormément d'énergie. Et du coup, continuer le dessin, c'est une manière pour moi de continuer quand même à produire quelque chose pour la lutte, mais qui est d'une manière qui ne me prend pas le peu d'énergie que j'ai. Voilà.
Est-ce que tu as un regard aussi, aujourd'hui, il y a quand même avec Instagram, tous les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'artistes qui mettent en avant tout cet imaginaire féministe, tout ça. Ouais. Est-ce que tu as une...
Bah, je trouve ça super. Moi, je pense que s'il y avait eu tous ces artistes quand j'ai commencé, j'aurais jamais dessiné, en fait, parce que je me serais dit, ah, bah, c'est bon, il y a ce qu'il faut. Les gens, ils savent dessiner, ils font des trucs super. Je pense que j'aurais rien fait, en fait. J'aurais juste diffusé leurs propres trucs. Voilà.
Et donc là, ton exposition, peut-être tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi de le faire ça, d'exposer tes dessins dans un arbre. C'est quoi l'idée ?
C'était l'idée que c'était dehors et qu'il y avait la possibilité de faire sur des grilles. Vous voyez, les grilles un peu de mairie, là, et que je trouvais ça horrible. Et du coup, j'ai regardé sur Google Maps, j'ai vu qu'il y avait des arbres, et je me suis dit, bon, ben, on va accrocher dans un arbre. Et du coup, c'est que des gravures originales. Je crois qu'à un moment, elles vont être vendues, d'ailleurs.
Ah, ben,
je sais pas si on... Mais je suis pas sûre, là, d'un coup. Ouais. Mais c'est possible que tout à l'heure, elles soient vendues aux enchères, je crois. Et c'est que des gravures originales, et voilà, sur du papier cartonné, voilà, de récup.
Et est-ce que toi, t'as envie du dessin ou pas du tout ?
Non, pas du tout. Bah, déjà, tout ce que je fais, c'est à prix libre, pour justement que ça soit accessible. Et j'essaye que les choses me coûtent le moins possible. Je prends du papier de récup, j'imprime sur du tissu, des mouchoirs qui sont de récup aussi. Et ouais, je trouve ça aussi... Bah, encore une fois, je viens du punk, et le prix libre, c'est quelque chose de hyper important. Et peut-être c'est un truc où je me sens en décalage peut-être avec la nouvelle génération de graphistes qui sont aussi qui se professionnalisent, où moi j'arriverais pas à vendre un truc 15 balles quoi. Enfin, ça me semblerait exagéré.
Quand tu dis que t'arriverais pas à vendre 15 euros, ça veut dire que c'est exagéré, c'est ça que tu veux dire, c'est trop cher?
Pour moi, j'arriverais pas. Après, moi j'en vis pas, j'ai une carrière professionnelle à côté, donc je suis pas dans les mêmes enjeux aussi. J'en vis pas, quoi. Donc c'est, pour moi, c'est un à côté. Après, s'il y a des personnes qui en font, qui mettent énormément de temps pour en faire leur métier, je comprends aussi qu'elles veulent en vivre, quoi. Donc je ne juge pas forcément, mais je me sens un peu en décalé.
L'humilité, quand même, hein, parce que c'est vachement beau ce que tu fais.
Merci.
Est-ce que peut-être on peut préciser, pour te retrouver, est-ce que tu as un site internet en dehors avec Instagram aussi, j'imagine?
Ouais, j'ai un Instagram, rizzo-boring. J'ai un blog... très old school,
soboring.wordpress.com,
et voilà.
Très très bien. Et pourquoi tu as voulu venir là ce soir en Lozère?
Et ben moi je habite dans le Tarn. Je trouve ça cool qu'il y ait un renouveau des prides, notamment des prides radicales en ville qui sont un peu séparées des prides commerciales, et plein de prides rurales en fait depuis quelques années. Je trouve ça super parce que moi j'étais Gwyn, j'ai grandi à la campagne, j'ai dû fuir en ville et là je peux revenir, c'est cool. Et j'étais venue il y a 2 ans, j'avais fait un atelier fanzine aussi, et c'était super aussi, l'équipe est super, et je trouve... Ouais, j'aime bien le monde et j'aime bien l'équipe de tapage, quoi.
Est-ce que tu as l'occasion justement de parler, de vivre ton homosexualité en milieu rural, en fait, justement, que ce soit plus aujourd'hui un problème comme toi, tu as pu le vivre à l'époque?
Je pense qu'il y a pas mal de LGBT qui sont partis en ville, qui essayent de revenir. Pas forcément là où ils ont grandi, plutôt dans des endroits où il y a d'autres gens, d'autres communautés militantes, etc., où c'est plus facile. Moi, je serais jamais retournée dans mon village, par exemple. Jamais. Jamais.
Même encore aujourd'hui?
Non, 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 non. Non, mais je suis traumatisée. Enfin, je pense qu'on est beaucoup de queer à être traumatisés de ce qu'on a vécu dans nos villages, quoi. Et j'ai l'impression que là, il y a un retour, mais plus on arrive en groupe ou on arrive dans des endroits où il y a déjà des dynamiques. Et je pense que c'est toujours difficile à plein d'endroits, le fait de ne pas avoir d'anonymat dans les villages, notamment ça, je pense, c'est un truc qui est quand même assez compliqué, quoi.
Pourvu que ça devienne la normalité un jour, quand même. Hein.
Oui, on espère. C'est en tout cas ce type d'événement qui y contribue. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Boring. Bon, bah Ben, je crois que ça y est. Hein. On a fait le taf.
Ah, c'est pas mal, là.
On a fait le taf.
Vive
les... Pas mal ou pas, on laissera en juger. Mais...
Vive toutes mais ces personnes qui se bougent. Merci beaucoup à ta page d'organiser ce genre d'événement, vraiment. Il y en aura encore plein. On se retrouve l'année prochaine au même endroit, même heure.
Allez, avec grand plaisir. Merci beaucoup à tous et puis très très bonne soirée.
Coucou lala, la tête, les fesses et la moula. Elle a tout, ça te fait le château et partout guili guili. Coucou lala, la tête, les fesses et la moula. Elle a tout, ça te fait le château et partout guili guili. Ses mains à terre, ses fesses ont l'air restées pliées en quatre. Ne lui dis pas comment faire, sa madame est indépendante. Sa position est basse, mais c'est elle, elle a la cote. Les mains posées sur le bassin, autour d'elle, tout le monde.